Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, les évêques membres de la CENCO dénoncent l'insécurité, l'intolérance politique et l'instrumentalisation de la justice congolaise à quelques mois des élections en RDC. Déclaration faite à Lubumbashi à l'issue de la 60e assemblée de cette structure de l'Église catholique. Nouveau couvre-feu décrété dans le Kwango de 20h à 6h du matin, objectif affiché par le gouvernement provincial, contrer au plus vite l'avancée des miliciens Mobondo dans plusieurs villages proches du Congo central où 3 miliciens ont été arrêtés hier après-midi à Kolokoso. Notre invité, c'est le coordonnateur de la Fondation Okadima, l'abbé Eli Mulumba, parle de la prise en charge des victimes de Kamwina Nsapu et des activités qui sont menées par cette ONG en partenariat avec le PNUD et le HCR dans la résolution des conflits au Grand Kassai et au Maïndombe. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé cet après-midi à Kananga les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine. Ce programme de 100 millions de dollars américains est financé par la Banque mondiale. Sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat, le projet vise notamment à lutter contre les érosions qui menacent la ville. Dans la suite du président de la République, il y a notamment le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et le ministre d'État de l'urbanisme et habitat, Pius Mabilou, et son collègue des finances, Nicolas Kazadi. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, invitent le peuple congolais à se réveiller. Ils dénoncent aussi l'insécurité, l'intolérance politique et l'instrumentalisation de la justice à quelques mois des élections de décembre. Déclaration faite à la presse ce vendredi à Lubumbashi par le secrétaire général de cette structure de l'Église catholique à l'issue de la 60e assemblée générale de la CENCO. À Lubumbashi, la correspondance de Jean-Gandou Kabongo.
La CENCO reconnaît les efforts du gouvernement de la CENI tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral dans le délai plus bref que les cycles électoraux passés. Toutefois, pour les évêques, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition et société civile, l'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer les fichiers électoraux. Pour la CENCO, le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Au sujet du climat politique tendu, la CENCO indique que les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit. Malheureusement, aujourd'hui, ils observent un recul déplorable, caractérisé notamment par la répression violente des manifestations de l'opposition, ainsi que les arrestations arbitraires. Au regard de tout ceci, ils formulent quelques recommandations au gouvernement de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties engagées au processus électoral, conformément aux textes légaux, à la CENI de garantir la transparence des opérations de vote et des dépouillements par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, un nouveau couvre-feu a été décrété dans le Kwango de 20h à 6h du matin. Ainsi en a décidé le gouvernement provincial pour contrer l'avancée des miliciens Mobondo dans plusieurs villages proches du Congo central. Le porte-parole du gouvernement provincial affirme à Radio Okapi qu'au moins 3 miliciens ont été arrêtés hier après-midi à Kolokoso où ils préparaient un assaut avant la session ordinaire de l'examen d'État. Adela Nkissi a été joint par Irène Mboma.
Cette mesure est intervenue à la suite de l'état d'avancement des assaillants, qu'on appelle communément les Mobondo, dans plusieurs villages au-delà de l'artère principale qui part de Kinshasa vers Kikwi, en s'avançant de Popokabaka, Kasongolunda, ainsi que le Congo central. Et voilà, donc c'est comme ça que nous avons pris cette mesure il y a peu. Il y a à la limite 4 jours passés. Nous avons recommencé avec cette mesure de couvre-feu. Nous demandons à la population d'être vigilante. C'est dans le secteur de Kolokoso où il est signalé l'arrestation de 3 Mobondo qui disent avoir recommencé les réorganisations du fait qu'ils ont appris que Kinshasa se préparait à les attaquer après les examens d'État. Et ainsi, ils ont préféré nous surprendre avant les examens d'État pour se faire prendre au filet.
Harmoniser et coordonner en même temps les actions et les forces en présence afin d'aboutir à la pacification de la partie est de la RDC. C'est l'objectif du sommet de Luanda qui aura lieu mardi prochain en Angola. Les travaux préparatoires ont été ouverts ce vendredi dans cette ville en présence des experts de la CEAC, de l'EAC, de la CIRGL et de la SADC. Des précisions avec la chargée de la communication au ministère de l'Intégration régionale, Madame Laurette Mandala. S'est confié à Jacques-Yves Molima.
Ce sommet-là va réunir la SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. L'idée, c'est faire une coordination et l'harmonisation de toutes les initiatives de paix sur la République démocratique du Congo. À la fin du sommet, nous allons avoir une feuille de route. Cette feuille de route-là sera claire. Elle va faire une division de travail entre les organismes régionaux et va présenter un calendrier bien défini pour permettre une coordination et une harmonisation rapide sur terrain. Donc c'est un sommet quadripartite qui est très très important parce qu'au moins une fois, nous aurons toutes ces initiatives de fait mises ensemble pour nous permettre d'aller directement vers la pacification de l'Est. La quadripartite va éviter qu'il y ait chevauchement sur terrain. Donc c'est la rationalisation des efforts et là, dans le but maintenant d'avoir un calendrier avec une feuille de route qui sera très efficace et on aura l'impact directement sur terrain.
Et puis l'ONG Journaliste en danger, GED, en collaboration avec Internews, a achevé hier jeudi ici à Kinshasa un atelier sur l'évaluation des outils de surveillance et de protection des journalistes congolais. L'assistant chargé de la recherche au sein de GED parle d'un plaidoyer des trois dernières années et cela pour mieux protéger les membres de la corporation. Félix Kalala le dit à Junior Ika.
Nous mettons cet exercice de réflexion sur le compte d'un plaidoyer, hein, parce que nous sommes de ceux-là qui pensent que le journaliste doit être protégé. Si on veut effectivement l'associer à l'œuvre de la reconstruction, de la pacification et même du développement de notre pays en général. Donc, pour bien protéger le journaliste, il faut qu'il y ait des lois pour ce faire. Et non seulement les lois, il faut que ces lois-là, ces prescrits juridiques soient respectés par tout le monde. Parce que vous allez être d'accord avec moi que dans notre pays, ce ne sont pas des lois qui manquent. Nous avons un arsenal juridique très important, mais malheureusement qui n'arrive pas à soutenir la bonne qualité de l'exercice de la liberté de la presse.
Dans un autre chapitre, partons tout de suite pour l'Ituri où la réserve de fauna Okapi dénonce la perte de plus de 400 hectares de son espace suite aux activités anthropiques. Cette requête a été formulée dans un communiqué rendu public hier jeudi à l'occasion de la Journée mondiale des forêts tropicales. Cette institution plaide pour la protection de ces sites qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour en parler, retrouvons à Bounia Martial Kizabiamungu.
La réserve de faune à Okapi se dit très préoccupée par ce qu'elle qualifie des activités anthropiques pratiquées dans et autour de ses patrimoines mondiaux. Il s'agit notamment, selon son communiqué, d'une forte expansion d'activités agricoles dans les zones délimitées à l'intérieur de la réserve. L'abattage des arbres pour la production de charbon, communément appelé makala, et le sillage pour les planches, l'exploitation minière illicite, artisanale et semi-industrielle qui rase la forêt. Les chargés de communication de cette réserve indiquent que des efforts sont fournis pour faire face à ces problèmes. Ephraim Chirouza.
La RFO travaille d'arrache-pied avec les communautés locales pour freiner l'expansion de la perte de la couverture forestière dans la réserve. Plusieurs initiatives de conservation et de soutien à l'engagement communautaire sont mises en œuvre dans la RFO.
Marthe Mangala, coordonnateur de l'ONG Programme d'action pour le développement intégré du paysan, PADIP, qui encadre les autochtones à Ipoulou, indique que son organisation multiplie ses séances de sensibilisation de la population locale pour que cette dernière s'implique dans la protection de la biodiversité. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis au Maniema, le maire de Kindu a entamé hier jeudi la démolition systématique des constructions anarchiques dans cette ville. Objectif affiché par Augustin Atibou, rouvrir toutes les voies qui sont obstruées par les maisons anarchiquement construites. Radio Okapi, Kindu, Florence Kizalunga.
Tout a commencé sur le boulevard Lumumba où 4 maisons ont été détruites sur instruction du maire. Un choc pour le propriétaire de cette parcelle qui a vu toutes ses maisons être démolies au même moment. Mais le maire parle du souci de dégager les passages sur les espaces verts. Augustin Atibou Moulamba.
C'était dans les soucis de dégager toutes les servitudes qui ont été obstruées par ces constructions anarchiques. Alors, il aurait fallu que nous puissions remettre les choses en place en respectant le plan cadastral tel que tracé par les services compétents. Comme vous le savez, il y a d'autres habitations qui ont été érigées. Les propriétaires de ces habitations-là ont des titres leur octroyés par l'État congolais, mais au jour d'aujourd'hui, ils se sont retrouvés enclavés par le fait qu'il y a eu des constructions anarchiques qui ont obstrué la voie publique. La procédure a été respectée. J'avais signé un arrêté et avant même de signer l'arrêté, j'ai signé un ordre de mission regroupant tous les services concernés qui sont descendus sur le terrain et qui ont dégagé la servitude. Il n'y a pas d'indemnisation possible.
Selon Augustin Atibou Moulamba, cette opération va se poursuivre dans d'autres coins de la ville de Kindu pour laisser les passages libres sur l'emprise de l'État. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
On enchaîne avec le Sud Kivu où une quarantaine d'étudiants ressortissants du territoire de Kalehe, victimes de la récente catastrophe naturelle de Bouchouchou et de Nyamukubi, ne peuvent pas maintenant passer leurs examens. Certains ont perdu leurs parents, d'autres tous les biens. Le président de Jeunes Bahavu de Kalehe appelle à l'aide de ces étudiants. Prudent Chamavu, interrogé par Rachel Kiesemangu.
Nous continuons à lancer un appel à tout le monde de pouvoir intervenir nos frères étudiants du Bouchouchou, Nyamukubi, qui avaient perdu les leurs et tout le patrimoine qui les aidait à étudier sans difficulté. À pareil instant, nous sommes saisis par nos frères et sœurs des Calais littorales, plus particulièrement des villages de Bouchouchou, Nyamukubi et Kabushungu. Ils continuent à solliciter l'aide des part et d'autre, que ce soit à travers le gouvernement provincial, le gouvernement national, tous les partenaires du gouvernement congolais, toutes les personnes physiques ou morales de bonne foi, de pouvoir intervenir nos frères qui continuent à souffrir sincèrement. Ils sont difficiles à trouver quoi manger pendant que ce n'était pas ainsi quand ils avaient encore leurs parents qui les aidaient dans tout. Ils sont incapables aujourd'hui même de se payer un savon parce que tout simplement ils ont été victimes de la catastrophe.
J'ajoute que le gouvernement provincial du Sud Kivu a promis de réagir à cette requête des étudiants dans les prochaines heures. Dans le Kwilu, plus de 90 enseignants de 11 écoles primaires de la ville de Bandundu réclament 50 000 francs congolais de primes de gratuité non payées depuis 6 mois et les frais de fonctionnement de leurs établissements. Ces enseignants font remarquer que l'absence de frais de fonctionnement bloque les activités de leurs écoles. À Bandunduville, Irène Boma.
Les 11 établissements scolaires de la ville de Bandundu concernés par cette situation sont entre autres l'EPE Nzikita, l'EPE Ngamidjimba, l'EPE Blanchik, l'EPE Mpiansele, l'EPE Muzinga, l'EPE Maîtresse Vala, l'EPE Bénédicte, l'EPE Nzumba, l'EPE Ngemba, complet scolaire Espoir et le complet scolaire Pobobavon. Depuis le mois de janvier dernier, soit 6 mois déjà, les 94 enseignants qui comptent ces écoles n'ont jamais reçu leur prime de gratuité, comme le témoigne Fatah Kinkoni, l'une d'entre eux.
Nous ici, aucun franc. C'est comme si nous sommes négligés. Mais nous enseignons comme les amis. Nous voulons que nos droits soient rétablis.
Outre cette prime de gratuité, les gestionnaires de ces 11 écoles disent aussi ne pas avoir reçu des frais pour faire fonctionner leurs écoles pendant toute cette période. Lubi Sadam, directeur de l'EPE Ngamidjimba.
Nous souffrons énormément pour faire fonctionner ces écoles. Nous endettons des fournitures du bureau. Nous sommes devenus ridicules chez les marchands. Nous sollicitons votre implication, ministre de l'EPST, pour que la situation soit décantée.
Selon ces enseignants, en 2022, ils touchaient leur argent en provenance d'une banque située dans la province de la Tchopo. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le sommet de Paris s'est achevé cet après-midi en France avec la restitution du président Emmanuel Macron sur des différents engagements qui ont été pris par les 40 chefs d'État et de gouvernement présents aux assises. Les avancées concrètes sont maigres. Les 100 milliards de dollars américains destinés aux pays pauvres pour le climat ne sont toujours pas là, pas plus qu'un embryon de taxes sur le secteur militaire et le secteur maritime en même temps, qui suscitait l'espoir de tous les participants à ce sommet. La question de la dette progresse davantage, notamment en faveur de la suspension en cas de catastrophe naturelle. Et puis un pont, un important pont entre la Crimée annexée et une région du sud de l'Ukraine partiellement occupée, touchée jeudi après-midi par une frappe ukrainienne, n'est plus utilisable pour l'instant, a indiqué ce vendredi après-midi un responsable russe. Malheureusement, le pont est bien plus endommagé que ce que nous pensions initialement. Pendant les 15 à 20 jours qui viennent, voire plus le temps que les travaux soient menés actuellement et qu'on détermine en même temps ce qu'on peut faire, le pont n'est plus utilisable pour la circulation, a indiqué à la télévision russe le responsable de l'administration pour la partie occupée de la région de Kherson.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la Fondation Kadima, l'abbé Eli Mulumba, parle de la prise en charge des victimes de Kamwina Nsapu et des principales activités qui sont menées par cette ONG en partenariat avec le PNUD et le HCR dans la résolution des conflits au Grand Kassai et au Maïndombe. Il s'entretient à Kananga avec Richard Junior Kamunga.
Abbé Eli Mulumba, bonjour.
Bonjour, monsieur Junior.
Quelles sont les activités principales de la Fondation Kadima?
Et la Fondation Kadima, dans l'espace Kassai, mais aussi même sur le plan national, a beaucoup d'activités. Et d'abord, dans le domaine de l'éducation, la Fondation Kadima contribue à la réhabilitation de certaines écoles, voire la construction de certaines écoles. Donc, la Fondation octroie des tôles à des communautés qui produisent des briques et se construisent elles-mêmes leurs écoles. La Fondation soutient l'éducation en appuyant aussi un matériel didactique comme nous l'avons fait cette année et l'année dernière. Dans le domaine de la santé, la Fondation Kadima soutient des structures de santé avec des médicaments, des lits d'accouchement, comme ces deux dernières années, nous en avons distribué beaucoup dans l'espace Kassai, mais aussi sur le plan national. Nous appuyons de manière particulière l'hôpital Saint-Georges de Kananga, l'hôpital de la chaussée de Kananga, avec le petit déjeuner pour tous les malades hospitalisés depuis 5 ans dans cet hôpital. Ça, c'est dans le domaine sanitaire. Avec le HCR, nous avons un partenariat. Nous travaillons dans la coexistence pacifique. Nous sommes en train d'appuyer la consolidation de la paix et la cohésion de nos communautés après les événements de 2016 et 2018. Nos communautés ont été très déchirées. Nous y travaillons. Et nous travaillons aussi dans le monitoring des préfections ici au Kassai. Et aussi dans le Bandundu, nous venons d'ouvrir et d'affecter nos agents dans la zone de Komout avec tout ce qui s'y passe que vous connaissez. En dehors de cela, il y a les soutiens permanents que nous accordons à des communautés, par exemple dans l'agriculture, des semences, des outils aratoires et parfois aussi des vêtements. Quand on en a, nous soutenons aussi le développement.
Dernièrement, la Fondation Kadima a reçu les fonds du gouvernement central pour la prise en charge des victimes de Kamwina Nsapu. On peut connaître ce que vous avez fait réellement sur le terrain.
Merci. Nous disons d'abord merci au gouvernement central à travers le ministre national des Affaires sociales qui a jeté son dévolu sur la Fondation Kadima pour faire arriver aux victimes de Kamwina Nsapu l'assistance humanitaire du président chef de l'État. Nous avons eu à travailler pour les 5 provinces du Kassai. Le bureau de Kananga s'est occupé de la distribution dans la province du Kassai central. Nous nous sommes associés avec nos amis de l'association des victimes de Kamwina Nsapu. Nous avons amené cette aide dans tous les 5 territoires. à Dimbelenge, à Dibaya, particulièrement chez Kamuina Sapu, à Kazumba, Chisuku, là où on a construit même le mémorial de ce phénomène, en Demba, ici à Kananga, dans tous les quartiers, Kamai, Bandai, Kabanza, donc tous les coins qui ont été touchés, Nganza, nous avons donné cette aide. Il y a eu des communautés qui ont eu des moulins, des tôles, des semences, parfois de l'argent. Donc nous sommes allés partout pour amener cette aide du gouvernement central.
La Fondation Kadima s'inscrit-elle dans les interventions durables pour le développement de la des provinces du Kassai, comme vous travaillez dans les camps Kassai?
Effectivement, en dehors des urgences ou des interventions humanitaires, nous travaillons aussi à construire des solutions durables. Bon, quand nous accompagnons l'agriculture, quand nous contribuons à la construction des écoles, ça sont des solutions durables. Donc on est non seulement dans l'humanitaire, mais aussi dans le développement, donc dans la recherche des solutions durables. Mais nous travaillons beaucoup plus aussi pour la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien construire de durable.
Abbé Elie Moulomba, je vous dis merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de la Fondation Kadima, l'abbé Elie Moulomba, qui a été interviewé à Kananga par Richard Junior Kamunga. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Alain Rongmouchich qui m'a accompagné. Julie Ngala, c'est à vous.